Place publique.
L'arc jurassien risque-t-il de tomber dans l'oubli de la presse romande? Après la disparition de l'Hebdo, Le Temps vient de supprimer son poste de correspondant dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et aussi dans le Jura bernois. Charles Juillard est notre invité. On parlera décidément beaucoup de médias dans Place publique ce soir avec la création d'un observatoire des journalismes francophones prochainement à l'Université de Neuchâtel. Une plateforme numérique qui verra le jour cet automne et qui bénéficie du soutien du Fonds national suisse. Enfin, nous verrons ce que pensent les Français établis en Suisse, notamment dans le Jura, de cette campagne folle pour la présidentielle, plus folle que jamais. Et c'est promis, on fait une place à l'humour dans Place publique, comme chaque semaine. Et cette fois, c'est Jérôme Moutet qui est avec nous après le rappel des titres à 18h32, soyons précis.
Jusqu'à 19h, Place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir. Comme si la disparition de l'Hebdo n'avait pas suffi, le journal Le Temps a subi, vous le savez, la plus forte restructuration de son histoire, avec 36 postes en moins dans la rédaction. Et nous l'avons appris, ces coupes auront une conséquence directe pour notre région. Le poste de correspondant de l'Arc jurassien disparaît. Serge Jubin, notre confrère, qui assurait cette fonction depuis des années, est licencié. Un signal peu réjouissant pour l'Arc jurassien, qui perd une vitrine pour exister au niveau national. Avec nous pour réagir, Charles Juillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre jurassien en charge des finances, impliqué aussi au niveau national en tant que président de la conférence des directeurs cantonaux des finances. Charles Juillard, Le Temps cesse d'être présent, si on peut dire, en permanence sur le terrain, dans les cantons de l'arc jurassien, dont le vôtre. Est-ce pour vous un motif d'inquiétude ?
Oui, c'est tout à fait regrettable cette décision, parce que nous savons pertinemment que même si on nous promet une couverture idéale de la région, le fait de ne plus avoir de journalistes qui habitent la région, qui sont imprégnés de ce qui s'y passe dans cette région, donc de l'arc jurassien de manière générale, nous font craindre le pire. Déjà que c'était difficile d'exister sur le plan roman, hein, des coups montés au-delà d'Yverdon, ça devient toujours un peu plus compliqué. C'était déjà le cas avec l'Hebdo, maintenant avec Le Temps, on a vraiment des craintes par rapport à ça.
Vous dites on nous promet, vous avez déjà pu en discuter avec la direction de cette publication ?
Nous avons déjà eu quelques contacts et nous entendons encore réagir officiellement justement avec nos collègues neuchâtelois pour faire part de ces inquiétudes, parce que la Suisse romande, c'est depuis le Jura jusqu'à Genève et jusqu'au fin fond du Valais, c'est pas seulement l'arc lémanique.
Je vous propose maintenant d'écouter le directeur de Ringier, Axel Springer, pour la Suisse romande, qui édite donc le quotidien Le Temps, Daniel Pillard. Nous lui avons demandé si la suppression du poste de correspondant dans l'arc jurassien ne correspondait pas, tout simplement, à une mise à l'écart de notre région.
Je comprends que cette question puisse être posée, je comprends la crainte, mais j'aimerais vous rassurer. On n'a évidemment pas fait cette réorganisation à la légère. Notre idée est plutôt que d'avoir le confort d'un correspondant régulier dans une région, on voit plutôt des parachutistes compétents un peu par domaine. Donc nous avons mandaté un journaliste chevronné qui s'appelle Michel Guillaume, qui est correspondant à Berne, qui est d'origine biennoise, et qui aura pour mission de couvrir la région Mittelland-Arc-Jurassien, notamment sur le plan politique, mais pas de manière fermée. C'est un journaliste politique, donc c'est clair que c'est son tropisme principal. Par ailleurs, nous avons aussi notre rédaction Fierro Pekka, qui est un journaliste compétent en matière d'économie, qui suit bien l'horlogerie. Et nous avons également Valère Gognat, qui s'occupe de l'horlogerie également et qui est rédacteur en chef de Montre Passion. Donc avec ces trois personnes qui sont originaires de l'Arc jurassien et qui ont donc la bonne sensibilité, je crois que les acteurs de l'Arc jurassien n'ont rien à redouter. Je fais même le pari que la couverture sera au moins aussi bonne qu'aujourd'hui, voire meilleure, puisqu'elle amènera de trois regards complémentaires.
Malgré tout, en vous privant des services de Serge Jubin, un journaliste d'expérience, des années dans l'arc jurassien, un réseau très dense, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre une perte de qualité ?
Non, je comprends le souci. Bien sûr que lorsqu'on se sépare de quelqu'un, on se sépare aussi d'un talent, hein. Donc c'est un pari un peu différent au niveau de l'organisation de la rédaction. Plutôt que d'avoir systématiquement un correspondant par canton, nous préférons avoir un regard un peu plus transversal. C'est aussi une chance, lorsque les gens viennent de l'extérieur, ils ont un regard un peu plus froid, peut-être plus détaché, et peut-être également voir les choses un peu autrement, se laisser surprendre par des choses qu'un correspondant local fait pour la 18e fois. Donc la fraîcheur du regard d'intervenant occasionnel est aussi un enrichissement possible. Nous, ce que nous demandons simplement, c'est qu'on nous donne l'occasion de faire la preuve par l'acte, et qu'on se donne rendez-vous dans une année pour voir si la couverture de l'arc jurassien a pâti de cette réorganisation.
Il n'y a pas de resserrage sur l'arc lémanique ?
Du tout, ce serait une erreur. Il est clair que Le Temps est très bien implanté sur l'art clémanique, mais sa vocation est d'être un journal roman, et c'est ce qui a fait son succès. On va continuer de travailler sur ce périmètre roman.
Daniel Pillard, vous maintenez une rédaction forte à Genève, vous maintenez les correspondants en Valais, vous supprimez celui de l'Arc Jurassien. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas à comprendre une forme de désamour ?
Non, je ne crois pas. Je comprends que les acteurs de l'Arc Jurassien, que ce soit chez Sophie, que cette question puisse l'interpréter comme ça. Il faut voir ça de manière un petit peu plus vaste. On a 80 journalistes qui vont servir Le Temps. Et il faut que ces 80 journalistes fassent le meilleur travail possible. Il est clair que ce qui est important, je crois, dans une rédaction, c'est d'avoir des gens qui viennent de la région concernée. On a encore trois Neuchâtelois que je viens de citer. Je pourrais encore ajouter, pour faire bon poids, Alain Janet, ex-rédacteur en chef de l'Hebdo, qui reste chez nous. Il sera directeur business et développement. Et à ce titre, il aura pour mission de développer des événements, des conférences, etc., dans l'ensemble de la Suisse romande. Et comme il est Neuchâtelois et qu'il aime son canton, je fais le pari que le forum des 100 qu'on a fait sur Neuchâtel l'année passée aura des répétitions, il y aura d'autres choses qui se passeront sur l'Arc Jurassien. Vous voyez, on a 4 Neuchâtelois et Jurassien de sensibilité, donc je crois qu'on est assez bien équipés pour pouvoir exercer notre mission.
Charles Juillard, est-ce que ces paris vous rassurent ?
Les Neuchâtelois ne sont pas tout à fait jurassiens et c'est déjà une première démonstration que l'arc clémanique ne connaît pas bien l'arc jurassien. Deuxièmement, nous souhaitons vraiment que les vents poussent assez souvent les parachutistes du temps jusque sur la région jurassienne parce que sinon nous risquons d'être complètement oubliés. Et je prends acte de cette volonté d'être quand même présent. Nous le verrons assez rapidement. Nous avons des conférences de presse qui sont agendées très prochainement, en particulier pour présenter les comptes de la République et canton du Jura. Nous verrons si Le Temps s'y intéresse ou pas.
En tout cas, votre homologue neuchâtelois, Jean-Nat Caracache, qui préside le Conseil d'État neuchâtelois, justement, et l'association arcjurassien.ch déplore, comme vous, le choix du journal Le Temps. Sa réaction ?
Bien sûr, je crois que c'est un risque qui est bien réel aujourd'hui, avec globalement la restructuration du paysage médiatique et le fait qu'on quitte un peu ces logiques d'implantation régionale pour une série de médias au profit d'une couverture, on va dire, de régions comme l'Arc Jurassien à distance. C'est certain que ça présente un risque de perte de visibilité pour nos régions. C'est un phénomène qui nous inquiète, qui nous interpelle et on a décidé de s'en saisir dans le cadre de l'association Arc Jurassien.ch que je préside et qui regroupe les cantons de Neuchâtel, Jura, Berne et Vaud pour pouvoir thématiser cette question-là, notamment avec les responsables du temps pour finalement nous entendre quant à la manière dont ils envisagent la couverture de cette région qui fait partie de la Suisse romande, qui joue un rôle important au niveau régional et national, notamment par les activités qui s'y déploient et qu'il est donc important de continuer à couvrir de manière complète et visible dans tous les médias qui se veulent des médias romands ou nationaux.
Charles Juillard, il y a des attentes par rapport au traitement de la presse écrite, surtout quand il s'agit d'un quotidien de référence au niveau roman, voire au niveau national. Si on a des attentes, est-ce qu'on ne devrait pas aussi donner des contreparties, des gages, du soutien, peut-être un peu plus franc, des pouvoirs publics, des collectivités vis-à-vis de la presse écrite, comme vous le savez, sous pression très forte au niveau des finances ?
Bon, je crois que cette question est d'actualité, en effet, mais je crois que jusqu'à présent, la presse a toujours plutôt vu ça d'un pas trop bon œil, parce qu'elle avait peur que si on la finance, eh bien, qu'elle soit obligée de retransmettre l'information officielle. Et quelque part, cette question va sérieusement se reposer. Mais c'est aussi peut-être une chance pour d'autres quotidiens. Si les quotidiens romans, encore existants, relativement indépendants, arrivaient à s'allier pour peut-être prendre le relais du temps, ça c'est quelque chose qui ne notamment je pense au quotidien jurassien, je pense à l'Express ou à l'Impartial, je pense à la Liberté, je pense à d'autres médias romans. Si, à défaut de cette couverture romande et cette existence romande du temps, pourquoi pas, comme vous le faites vous déjà sur l'arc jurassien, d'autres quotidiens écrits pourraient prendre le relais aussi.
Vous êtes au contact des médias, question un peu impertinente, des médias pas seulement jurassiens mais aussi nationaux. Est-ce que vous avez l'impression que le Jura intéresse encore la Suisse si l'on met de côté la Saint-Martin et la question jurassienne ?
Bon, écoutez, quand nous avons des représentants qui s'engagent sur le plan national, comme je le fais, j'ai la chance de le faire sur le plan de la conférence des directeurs des finances, bien évidemment que les journalistes, d'une manière générale, redécouvrent souvent le Jura, pas seulement pour la Saint-Martin, comme vous le dites, mais aussi pour toute une série d'autres questions, des questions de politique générale, national. Et quelque part, c'est intéressant de pouvoir s'engager. Mais il faut impérativement quand même que ces médias soient implantés dans la région, connaissent la région, et puis pas seulement à l'occasion de quelques événements particuliers.
Dernière question, et rapidement, Charles Juillard, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour une collectivité comme la vôtre, pour le canton du Jura, de mettre en avant sa propre communication? On a appris d'ailleurs la semaine dernière que votre revue Jura l'original, qui n'a rien d'un quotidien, allait changer de nature pour être diffusée plus largement. Est-ce que vous aussi, vous ne devez pas porter plus de responsabilités dans votre communication, qui n'est peut-être pas encore de l'information?
Alors c'est vrai que Jura l'original, mais aussi nous avons décidé d'être plus présents sur les réseaux sociaux, et ce qui permettra aux journalistes que vous êtes de nous interpeller encore plus souvent, et nous sommes à votre disposition pour faire valoir le point de vue des jurassiennes et des jurassiens, mais de l'arc jurassien d'une manière générale, en espérant que votre association des radios régionales reprenne aussi ces informations.
Place publique, on parle de cette possible perte d'influence de l'arc jurassien en Suisse romande, à cause de la désertion de journaux de référence. Jérôme Moutet, ça vous fait réagir?
Non, ça me fait réagir, mais vous dites pas bonsoir, vous.
Oui, bonsoir Jérôme.
Bonsoir, ça va monsieur Levesque?
Mais on s'est vu avant, donc j'ai pas envie de refaire
ça,
les préliminaires.
Personne le sait. Heureusement que vous ne bossez pas chez Ringier, hein. Vous serez pas ici. Bonsoir monsieur Juillard, ça va?
Bonsoir monsieur Moutet.
Sinon, au gouvernement, vous, avec vos quatre apprentis, tout va bien?
Ah, ça va très bien, oui.
On les embrasse, hein, évidemment. Ils sont peut-être en train de faire des pages de i avant d'aller au lit. On pense à eux. Alors, non, monsieur Devec, cette histoire d'arc jurassien isolé dans la presse romande ne me laisse pas insensible. Mais pour que dorénavant on ait l'habitude d'être traité de la sorte, je vais maintenant vous parler comme si je travaillais pour Régie Romandie. Voyez-vous, comprenez? Vous comprenez?
Alors, je suis tout ouïe.
Ah, vous ne serez pas licencié tout de suite. Alors, moi, décideur chez Ringier, je salue l'auditeur qui nous écoute. Oui, l'auditeur, car j'imagine qu'à cette heure-là, tu dois être bien seul à écouter cette émission appelée Place publique, la seule place sans public. Non pas que cette radio ne soit pas à la hauteur et ne possède pas de bons journalistes, quoique ça se saurait. Mais à cette heure-ci, pas certain que tu dois encore avoir l'électricité dans ta grotte éclairée à la bougie. J'imagine également que bon nombre de tes congénères sont partis chasser le mammouth avec leur lance qu'ils ont confectionné cet après-midi autour d'un feu allumé au silex. Mais peu importe, car nous, chez Ringier, on pense à tout le monde, on aime tout le monde, on s'intéresse à tout le monde, même aux plus démunis. La preuve, je te parle. Moi, décideur chez Ringier, je vous salue aussi, monsieur Devec. Vous qui avez un nom de famille prédestiné à être un de nos correspondants dans l'arc jurassien, Vec.
Ok.
En résumé...
Elle est facile, mais j'accepte.
En résumé, casse-toi au plus vite. Monsieur Devec, je suis passé dans votre bureau tout à l'heure et c'est avec stupeur et étonnement que j'ai découvert que votre outil de travail principal était un Commodore 64. Stupeur, car vous avez un ordinateur. Et étonnement, car la dernière mise à jour date tout de même de 1984, ce qui est somme toute assez récent pour une radio comme la vôtre. Moi, décideur chez Ringier, je décide de vous saluer aussi, vous, monsieur Juillard, même si je découvre avec surprise que certains cantons de l'arc jurassien ont des autorités. Autorités à l'image que l'on a de vous et de votre région. Archaïque. Et ne me dites pas le contraire, monsieur Juillard, la preuve... Le gouvernement neuchâtelois siège où?
Neuchâtel.
Oui, dans quoi?
Dans un château.
Dans un château. Le tribunal cantonal jurassien siège où?
C'est le quatrième pouvoir.
À Port-Entruy, dans un château.
Et vous, monsieur Moutet,
dans les oubliettes. Justement, avec vous peut-être. Les oubliettes de ces châteaux regorgeraient de politiciens en tout genre que même les crocodiles ne veulent pas bouffer. Mais c'est peut-être une légende. Paraît-il aussi que les habitants de vos régions respectives déversent de l'huile sur les gens cultivés et intelligents de l'arc lémanique qui viennent leur rendre visite pour montrer à leurs enfants qu'une réserve d'Indiens peut très bien se trouver dans un château. Moi, décideur chez Ringier, je vais citer à présent notre fille spirituelle qui a eu tellement honte de nous qu'elle a enlevé une lettre à son nom de famille, Catherine Ringier. Ces quelques mots vous sont dédiés, monsieur Juillard, et je vous appellerai pour la circonstance Charlie. Hé Charlie, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Charlie. Ça fait un moment que je te suis, Charlie. Hé, tu viens chez moi ou alors on va chez toi? Allez, Charlie, quoi? Oh, dis-moi oui, Charlie. Tu peux tout changer en venant chez Ringier.
Place publique.
Et merci Jérôme, merci monsieur le représentant d'Axel Springer-Ringier. Le dialogue, Charles Juillard, a l'air bien parti.
Oui absolument, mais je crois qu'il faut déjà tremper Jérôme Moutet dans le goudron et ensuite en lieu de plume, même si Carnaval est passé, pour le ramener dans sa grotte évidemment, parce que je crois que du côté du Valterbie, malheureusement, il y a encore des régions, peut-être comme chez lui, pas tout à fait explorées. Mais le Jura pourtant est à la pointe de beaucoup de choses, notamment dans le domaine informatique, contrairement des Commodore, je ne sais plus combien, il n'y en a plus. Nous avons des guichets virtuels, et ça, il faut peut-être le dire aussi aux responsables de Ringier.
64, Commodore 64, monsieur Juillard, quand vous aviez 50 ans.
Charles Juillard,
je vous en prie, j'avais à peine 2 ans, s'il vous plaît, monsieur. Je vous étiez pas né, évidemment.
Pour conclure, est-ce que vous devez souvent lever des clichés, des a priori sur votre région, sur votre canton à l'externe?
Oui, alors je dois dire que d'une manière générale, le Jura a plutôt une bonne image à l'extérieur, mais c'est vrai que certains stéréotypes, et surtout sur l'arc lémanique, du style de la météo, de la neige toute l'année, de l'altitude qui est extrêmement haute, alors que finalement nous avons une altitude aussi basse que Genève ou que Lausanne, c'est vrai que ce sont des stéréotypes et nous avons besoin de la presse, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de médias régionaux et romans pour montrer qu'on existe et que chez nous il se passe aussi des choses et pas seulement des scandales, mais aussi des bonnes nouvelles, souvent des bonnes nouvelles dans cette région qui est très innovante.
Merci Charles Juillard d'être venu dans Place Publique. On vous souhaite évidemment un excellent week-end et à bientôt.
Merci.
Nous n'allons pas nous retirer du Jura.
Merci beaucoup.
Place Publique.
On accueille notre prochaine invitée, Annick Dubier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez l'Académie de journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel, l'AJM, qui a vu le jour en 2008 et qui accueille chaque année une trentaine d'étudiants niveau master, afin de les former au métier du journalisme. C'est dans ce cadre que vous allez créer donc un observatoire des journalismes francophones. Mais avant d'en parler plus en détail, un mot sur les difficultés de la presse romande. On vient d'en parler, des journaux qui licencient, voire qui disparaissent. Vous qui formez la relève de la profession, est-ce que cette évolution vous inquiète ?
J'ai pas grand chose à ajouter à ce qui s'est dit tout à l'heure, hein, c'était très complet. La formatrice que je suis, elle a envie de rebondir sur ce que disait Charles Juillard, c'est-à-dire souligner, et on le voit dans la formation et dans les stages de nos étudiants, la richesse du paysage neuchâtelois ou régional roman, avec des médias extraordinairement dynamiques, très inventifs, très denses, et qui proposent des alternatives aux grands médias qu'on a évoqués également.
Le paysage médiatique n'a pas fini de se restructurer pour finalement migrer en bloc sur le web, sans pour autant trouver de modèle miracle pour le financement, c'est-à-dire que ça va jouer des coudes encore plus que maintenant. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants qui se lancent dans le métier ? Est-ce que vous les orientez davantage, d'une certaine manière, quitte à les dissuader de prendre la plume uniquement ?
Les dissuader, certainement pas. On observe, en tout cas du point de vue de la JM, que l'intérêt pour la profession et l'envie de s'y lancer est toujours intact, qu'on a chez les jeunes et futurs journalistes une envie d'en découdre avec ce métier, d'essayer de voir comment non seulement il peut survivre, mais aussi se réinventer, utiliser les nouvelles ressources qui sont les siennes, les nouveaux défis qui lui sont posés pour aller plus loin, pour inventer, pour renouveler et pour montrer que les journalistes sont toujours indispensables et qu'ils apportent dans l'espace public une vraie plus-value qu'ils doivent souligner et qu'ils doivent mettre en évidence. D'où l'Observatoire des journalismes francophones.
Eh bien, j'allais y venir, justement, pour aider les médias, pour participer à cette réflexion, aider les médias à se réinventer. Eh bien, vous allez créer l'Observatoire des journalismes francophones, qui va voir le jour cet automne, un projet qui bénéficie du soutien du Fonds National Suisse à hauteur de 200 000 francs. C'est un gage déjà de crédibilité. Expliquez-nous d'où est partie cette idée.
Cette idée, elle s'inscrit dans la continuité d'autres projets qui ont été lancés il y a une dizaine d'années, qui s'appellent European Journalism Observatory, qui sont des plateformes dans plusieurs langues, une dizaine de langues aussi, qui proposent justement aux acteurs du champ médiatique, que ce soit les journalistes, les académiques ou le public, de se rencontrer autour d'une plateforme, de prendre connaissance des innovations, des recherches, des réflexions que certains professionnels peuvent avoir, et puis de discuter autour de ça. Le Fonds National propose des financements qui sont un peu particuliers, qui s'appellent Agora, qui donc, comme leur nom l'indique, ont pour objectif de créer une discussion publique autour de problèmes scientifiques et de permettre les échanges autour de ces problèmes scientifiques.
Il existe déjà, par exemple, sur les réseaux sociaux, des groupes où la profession elle-même se réinvente ou cherche à se réinventer. Qu'est-ce que votre plateforme va ajouter de plus à ce qui existe déjà ?
L'idée, c'est justement de favoriser ce contact et cet échange entre les académiques, comme moi, et les journalistes eux-mêmes. Ces échanges ne sont pas toujours fluides, ils ne sont pas toujours faciles, ce sont deux mondes qui ont des logiques, des rythmes et des manières de faire différentes, mais lorsqu'ils se rencontrent, et c'est ce qu'ils font à la JM depuis 8 ans, et ce que nous nous efforçons de faire de mieux en mieux au fil des années, lorsqu'ils se rencontrent, ils réussissent ensemble à penser un futur du champ journalistique, un futur de l'information, à réfléchir aux enjeux et à voir comment, au fond, on peut se développer, on peut utiliser les problèmes que pose le numérique pour en faire des avantages, comment on peut réfléchir au modèle économique et ainsi de suite.
Et reconnecter aussi avec le public parce que, vous le dites, les moyens traditionnels de diffusion ne sont pas toujours accessibles ou ne sont pas toujours sollicités par les jeunes publics. Vous voulez essayer de renouer avec les jeunes. Comment allez-vous vous y prendre ?
Alors, on veut effectivement orienter une partie du projet de l'Observatoire des journalismes francophones en direction des jeunes, non seulement parce qu'il y a une question qui se pose sur la manière de s'informer des jeunes générations, qui ne s'informent plus de la même manière, mais aussi parce qu'il y a, de manière plus générale, une difficulté à comprendre ce qu'est le journalisme, ce qu'est l'information, comment elle se construit, et que cette difficulté, il faut réussir à la dépasser en discutant, en informant, en faisant connaître les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent. Donc l'idée, c'est non seulement d'offrir un lieu et une série de vecteurs qui permettent cette discussion, mais aussi d'impliquer progressivement, sans entrer dans les détails du projet, d'impliquer par cercle de plus en plus large les personnes qui sont concernées par cette médiatisation. Ça va des professionnels eux-mêmes jusqu'au grand public, y compris ce jeune public qu'on oublie un peu trop souvent ou dont on dit un peu trop souvent il ne s'intéresse plus à l'information, ce qui n'est pas vrai, il le fait autrement. Et il faut aussi être capable de réfléchir ce qu'on fait en fonction de l'évolution de ces publics.
Plus que jamais, les médias sont accusés de tous les maux, partialité, manipulation, avec parfois peut-être un fond de vérité. Donald Trump, François Fillon se dressent en victime de cabales médiatiques. Dans quelle mesure votre observatoire peut contribuer à rétablir une forme de contrat de confiance entre journalistes et public?
C'est exactement l'objectif qu'il se donne à terme, s'il réussit ce qu'il va essayer de faire, c'est d'essayer de recréer la discussion et une meilleure compréhension entre les différents acteurs. Et vous donnez de très bons exemples. L'exemple de l'élection américaine ou l'exemple du Brexit ou bien d'autres montrent à quel point les journalistes, les académiques qui les accompagnent et bien d'autres doivent réfléchir à la manière dont ils couvrent ce genre d'événements, doivent s'interroger sur la faillite partielle qu'ils ont connue dans ces situations-là. Cet exemple-là me fait penser à ce qu'une de nos chargées d'enseignement a fait au niveau de la France. Anne Niva, qui est une journaliste de grand reportage, qui d'habitude part sur des terrains étrangers, a décidé de consacrer son dernier ouvrage à la France. À la France, non pas de François Fillon et de ses discussions avec ses pairs et des disputes politiques, mais à la France des gens tels qu'ils vivent dans des villes qui ne sont pas forcément des villes centrales dont on parle beaucoup. Voilà un exemple tout à fait typique d'une personne qui pourrait intervenir dans le cadre de l'Observatoire du journalisme francophone pour livrer une version résumée, une version à destination du grand public de son ouvrage et de la réflexion qui l'a mené à le faire, et pour livrer ça aussi à la discussion et à la réflexion.
Votre projet est reconnu, on l'a dit, au niveau national avec un subside important du Fonds national suisse. Est-ce que vous visez un rayonnement international ? Il n'y a qu'à lire le titre de votre observatoire, l'Observatoire des journalismes francophones. Ça veut dire que vous vous adressez, bien sûr, à une audience plus large que le milieu journalistique suisse.
Absolument. D'abord parce que nous avons des partenaires, que l'Université de Neuchâtel et la JM travaillent depuis longtemps en réseau, au niveau suisse, mais aussi au niveau européen, et que nous postulons qu'il y a une spécificité francophone dans cette question du journalisme et de sa compréhension publique et de sa discussion publique, que nous voulons mettre en évidence en travaillant avec nos partenaires français de l'Université de Metz et nos partenaires belges de l'Université de Louvain-la-Neuve, dans un premier temps, pour ensuite, dans la mesure du possible, et si nous atteignons nos objectifs, ouvrir ça encore au-delà à la francophonie telle qu'on peut la trouver sur le continent américain ou sur le continent africain. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. On va déjà commencer par mettre en place ce système, par voir comment on arrive ou pas. Mais j'espère bien qu'on va y arriver à créer cette discussion, à permettre cette meilleure compréhension du journalisme et de ses enjeux, et à accompagner les évolutions en utilisant tout ce que les recherches académiques peuvent apporter apporter comme élément de réflexion historique, économique, juridique, technique sur ce champ extrêmement complexe et tout à fait passionnant.
Votre académie de journalisme et des médias à l'université de Neuchâtel, que vous dirigez depuis le départ, sauf erreur,
depuis 3 ans et demi.
Alors il y avait une erreur, c'est ça.
Oui.
Elle est née en 2008, mais vous la dirigez depuis 3 ans et demi. Alors voilà, c'est corrigé. Annick Dubier s'impose de plus en plus comme un acteur incontournable, déjà en Suisse et j'allais dire dans le monde, en tout cas dans le monde francophone. Vous faites une place après ces années d'existence.
Je l'espère. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est dire à quel point nous croyons à la manière de former au journalisme que nous développons, nous. C'est-à-dire ce dialogue permanent entre pratique et réflexion théorique, parfois, qui finit parfois à la confrontation, parce que, comme je l'ai dit, ce sont deux champs qui n'ont pas les mêmes logiques, mais un dialogue permanent, une confrontation permanente qui a l'avantage de permettre d'avancer ensemble et de permettre d'aller au-delà de certaines réflexions trop simples ou trop peu documentées. Donc, je crois beaucoup effectivement au modèle qu'offre l'université pour former les journalistes lorsqu'elle le fait de manière professionnalisante comme nous le faisons à l'AJM. Et il se trouve que nous avons un certain nombre de partenaires qui font comme nous, en Belgique, en France, je les ai évoqués. Et puis j'espère qu'on réussit à faire valoir ce modèle parce que j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup qu'à l'heure actuelle, il faut former des journalistes, il faut former des journalistes compétents, créatifs, capables de réflexion et de réinvention de leur métier. Et je pense que c'est avec l'université qu'on peut y arriver.
Surtout
en bonne intelligence avec la profession.
Merci, surtout qu'une interview, notre interview l'a montré, une faute, c'est vite arrivé. Annick Dubier, merci d'avoir été avec nous. On se réjouit de découvrir, bien sûr, plus en détail cette nouvelle plateforme qui verra le jour en automne. Bonne soirée.
Vous aussi.
Place publique.
Rien ne va plus pour la droite en France à 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle. François Fillon, le candidat désigné lors des primaires, est plus fragilisé que jamais. Sa décision de se maintenir coûte que coûte dans la course à l'Élysée, malgré sa mise en examen, lui vaut d'être lâché par les siens. Aujourd'hui, on apprend que c'est son porte-parole Thierry Soler qui jette l'éponge et un sondage tout frais du jour prédit même que si Alain Juppé se présentait au premier tour, il devancerait Emmanuel Macron. Alain Juppé, donc, lui-même se dit prêt, le cas échéant, à remplacer Fillon si celui-ci se défile. D'ailleurs, les partisans de Juppé ont déjà commencé à récolter les parrainages. Bref, un petit air de gabegie règne du côté des Républicains. On en parle avec vous, Philippe Denime, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous présidez la Société française de bienfaisance de Delémont et environ. Vous êtes au contact des Français établis dans le Jura. Vous êtes en quelque sorte notre antenne, nos antennes. Dans le Jura, où vivent pas loin de 4500 de vos compatriotes. Alors, quel sentiment domine dans votre communauté, tandis que chaque jour apporte son lot de retournements et de révélations?
Alors, le sentiment, déjà, bonsoir. Le sentiment des Français que je côtoie pratiquement tous les jours, c'est, comme vous avez dit, un sentiment de gabegie, de grand n'importe quoi. Et déjà, avant les primaires où les gens de gauche pouvaient aller voter à droite pour faire tout leur possible que Sarko ne revienne pas en présence, mais maintenant, on ne sait plus tellement quoi faire. Et je pense qu'on va vers un grand abstentionnisme pour les votations.
Donc vous êtes déboussolé, et ça vous touche d'autant plus, vous les Français qui vivez dans le Jura et dans la région, que vous êtes plutôt à droite. Vous avez soutenu largement Nicolas Sarkozy il y a 5 ans.
Oui, bon c'est assez, je dirais, normal que les Français établis ici soient plutôt à droite. On est dans un pays qui est très sympathique, confortable, agréable.
La gauche est sympathique aussi, hein?
Oui, mais on sait très bien qu'à un moment donné, quand on a un petit pécule, on va beaucoup plus facilement voter à droite.
Je vous ai bien compris. Alors je vous propose, avant de poursuivre, d'écouter votre députée à l'Assemblée nationale, Claudine Schmitt, députée donc des Français de Suisse et du Liechtenstein à l'Assemblée. Elle est issue des rangs de la formation des Républicains. Nous lui avons demandé si elle craignait, comme vous, une démobilisation des électeurs, notamment en Suisse.
Concernant les électeurs de droite, moi, il me semble au contraire que s'il y a peut-être quelques incertitudes en ce moment, qu'ils iront voter. Mais par contre, il y a une grande passion. Alors, il y a les pros, il y a les contres, mais de toute façon, ils ne veulent pas que cette victoire leur échappe. Et ils veulent vraiment un président de droite, un président issu des Républicains. C'est ce qu'on entend. Alors, il y a autant, je dirais, de personnes qui sont pour le candidat en lice en ce moment, que certaines personnes qui disent pour que nous gagnions, il faut changer de candidat. Mais je pense qu'ils iront tous voter. En tout cas, moi, c'est en tout cas ce qui me remonte. Et je sens une passion s'accélérer depuis 2-3 jours.
Depuis 2-3 jours, l'incertitude aussi augmente avec des discussions en coulisses pour une éventuelle candidature de Juppé qui se dit techniquement prêt avec Sarkozy qui apparemment met les bâtons dans les roues. François Fillon de plus en plus esselé. Est-ce que dans ce scénario, ce n'est pas la gabegie qui va déboussoler les électeurs ?
Je ne sais pas si on peut qualifier ça vraiment de gabegie. En fait, ce que veulent les élus, c'est que nous ne soyons pas sans candidat. Donc ils se disent, comme tout peut arriver, comme cette campagne est complètement inédite, elle est complètement folle et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, nous voulons nous assurer qu'il y ait un candidat des Républicains. Donc pourquoi pas ne pas donner des parrainages à M. Juppé pour que si M. Fillon, pour une raison ou pour une autre, devait se retirer, alors à ce moment-là, nous ayons un candidat. Après le 17 mars, nous ne pouvons plus rien faire. Donc s'il arrive quoi que ce soit, M. Fillon, après le 17 mars ou même le 15 au soir, il n'y a plus le temps de faire remonter les parrainages jusqu'au Conseil constitutionnel. Donc c'est en fait quelque chose comme une assurance. Je dirais que c'est plutôt une maturité du parti de prévoir qu'il puisse arriver quelque chose après le 17 mars ou en tout cas après même le 15 mars, puisqu'il faut encore le temps que le Conseil constitutionnel réceptionne ces fameux parrainages. Donc ça peut paraître comme une gabegie, mais c'est plutôt comme une sécurité et une maturité du parti de faire ça.
Dans votre rôle d'élu à l'Assemblée nationale, de représentante des Français de Suisse, qu'est-ce que cette campagne change dans la manière dont vous vivez votre mandat ?
Moi, je suis sur le terrain. L'Assemblée nationale a suspendu ses travaux il y a une dizaine de jours. Donc moi, maintenant, c'est le terrain tous les jours, pour essayer de convaincre les personnes, d'abord de ne pas se démobiliser et de regarder, d'expliquer ce qui se passe entre un candidat et un autre candidat et quelles sont les propositions qu'ils font et qu'ils font aussi pour les Français de l'étranger. Parce que ça, on nous interroge aussi beaucoup à ce sujet-là. Quid de la fiscalité pour les Français de l'étranger ou quid de ce qui peut être retraite ?
Philippe Denimes, Alain Juppé, plan B, il y aura de toute façon un candidat pour les Républicains. Ce rebondissement, pour vous, c'est celui de trop malgré tout ?
Oui, je pense que c'est de nouveau un grand n'importe quoi qui se passe dans la politique actuelle. Et plutôt que, contrairement à ce que Mme Schmidt disait, les Français n'ont pas envie de voter systématiquement à droite, je crois même que maintenant, ils en sont plutôt à voter l'extrême droite, essayer une fois autre chose. Et malheureusement, ce serait terrible.
À vous entendre, c'est l'abstention ou le choix de Marine Le Pen ?
Oui, je pense que ce sera ou une réaction violente en votant Marine Le Pen, ou alors beaucoup plus calme et une abstention.
Cette campagne fait la part belle aux personnes, avec tous les déboires associés, mais apparemment peu aux idées, en tout cas c'est ce que regrette aussi Claudine Schmitt, peu de place pour les véritables préoccupations. Quelles sont les vôtres et celles de ceux que vous côtoyez ?
La première préoccupation qu'il y a pour tous les Français, que je côtoie et avec qui je parle régulièrement, c'est l'avenir de leur jeunesse, de leur enfant. C'est les places de travail, c'est le chômage qui n'arrive pas à régresser. Ça, c'est vraiment une préoccupation terrible.
Eh bien, on a pris note, en tout cas, de vos prédictions, qui ne sont pas forcément très réjouissantes, de l'abstention ou un vote de colère du côté des Français que vous côtoyez, établis dans la région. Philippe Denimes, merci. Merci d'avoir été avec nous. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est le 23 avril. On en reparlera. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Et Place Publique, eh bien, c'est terminé pour cette semaine. Merci à nos invités, merci à Jean-Michel Props pour la réalisation. Vous retrouvez cette émission sur nos applications ou sur nos sites internet RJB, RTN, RFJ.ch. Bon week-end et à vendredi prochain.
Place Publique.